Sofia Gubaidulina est une compositrice de musique contemporaine russe. Elle est née en 1931, elle est toujours en vie, elle vit à Hambourg aujourd'hui, en Allemagne. C'est probablement la compositrice, ou en tout cas l'une des compositrices les plus appréciées, les plus jouées, les plus sollicitées au monde. Pourtant, elle n'est pas aussi connue du grand public que peut l'être certains de ses collègues, comme le compositeur estonien Arvo Pärt, par exemple. Alors que sa musique présente, je trouve, de nombreux atouts. Déjà, c'est une musique qui est très abordable. C'est de la musique contemporaine, hein, ça, il n'y a pas de doute. C'est une musique qui est profondément ancrée dans son époque. C'est une musique qui est profondément originale, personnelle. Mais ce n'est pas de la musique contemporaine radicale. Et ce n'est pas non plus de la musique rétrograde. Donc je trouve qu'elle atteint dans sa musique un très bon compromis entre tradition et modernité. Un autre atout de sa musique, c'est que c'est une musique qui est profondément spirituelle. C'est une musique qui touche les gens qui l'écoutent parce qu'elle répond, je crois, à un besoin profond de notre époque de prendre un peu de recul sur le matérialisme ambiant et retrouver un petit peu le sens de l'absolu. Et Gubaidulina se donne vraiment pour mission de répondre à cette soif d'absolu. Elle se sent investie d'une mission religieuse qu'elle prend vraiment au sens étymologique de relier, de réunir, de retrouver le lien d'une unité profonde. Elle dit « La vie réduit l'homme en tant de pièces que je ne connais pas de tâche plus sérieuse que d'aider par la musique à reconstituer son intégrité spirituelle. » Ça me fait vraiment penser à cette phrase qu'avait écrite Messiaen et ses collègues compositeurs en 1935. Il disait « Les conditions de la vie devenant de plus en plus dures, mécaniques et impersonnelles, la musique se doit d'apporter sans répit à ceux qui l'aiment sa violence spirituelle et ses réactions généreuses. » Alors, lorsqu'elle est enfant, Gubaidulina ne reçoit pas d'éducation religieuse, pas par athéisme, mais plutôt par peur des représailles du régime soviétique. Et l'année suivante, elle va faire une rencontre absolument fascinante. Un piano va débarquer à la maison et Gubaidulina va très vite commencer à improviser sur le piano en utilisant parfois des façons de jouer un petit peu insolites. Elle va gratter les cordes, elle va pincer les cordes, elle va frotter les cordes avec tous les objets qui lui passeront sous les mains. Donc on a déjà très vite une appétence pour tout ce qui est du domaine de l'expérimental. Ses parents vont l'inscrire à l'école de musique, puis au conservatoire de Kazan, qui est une ville située à 700 km à l'est de Moscou. Et Gubaidulina va y faire des progrès fulgurants. C'est une jeune prodige qui se passionne très vite pour les deux compositeurs soviétiques stars de l'époque, à savoir Prokofiev et Shostakovich. En 1948, le comité central du Parti communiste décide de blacklister Prokofiev et Shostakovich parce qu'ils sont jugés trop avant-gardistes, trop élitistes, trop intellectuels. Et à cause de ce climat un petit peu angoissant de censure, d'intimidation, de haine envers tout ce qui est du domaine de l'expérimentation, de la recherche musicale, eh bien, Gubaidulina va cesser les études de composition pendant 5 ans, tout en continuant le piano. En 1953, Staline meurt, le même jour que Prokofiev. D'ailleurs, le pauvre, il n'aura aucune fleur sur sa tombe parce que toutes les fleurs auront été réservées pour la tombe de Staline. Et avec la mort de Staline, le climat va se détendre un petit peu et Gubaidulina va reprendre, en 1954, des études de composition, cette fois-ci au conservatoire de Moscou. Et Gubaidulina va profiter de cet apparent climat de détente pour laisser libre cours à ses penchants novateurs, ses penchants expérimentaux, sauf que, eh bien, elle va aller trop loin. Et pour son examen de fin d'études, elle va proposer une œuvre trop audacieuse, qui ne va donc pas du tout plaire au jury, qui va lui dire qu'elle est en train de prendre une voie erronée. Sauf qu'en privé, Shostakovich, qui entre-temps avait été réhabilité et qui faisait partie du jury, va venir la voir en privé, et va lui dire quelque chose qui va la marquer profondément et qui va un petit peu être déterminant pour la suite de sa carrière. Il va lui dire qu'il faut absolument qu'elle poursuive sur cette voie erronée. Et donc Gubaidulina va s'installer comme compositrice indépendante dès 1963. Elle va donc, sur les conseils de Chostakovitch, continuer sur sa voie erronée, ce qui fait que pendant des années, elle ne sera quasiment jamais jouée ni éditée. Et donc, elle survivra en faisant de l'alimentaire, des musiques de films, par exemple. Alors, pourquoi ses œuvres sont-elles censurées ? Bon, déjà, sa musique est beaucoup trop moderne, beaucoup trop élitiste pour le régime, même si c'est beaucoup moins audacieux, enfin avant-gardiste, que ce qui pouvait se faire en Europe à la même époque. Il y a un autre problème qui embête les autorités dans la musique de Gubaidulina, c'est que c'est une musique qui baigne dans un climat spirituel, dans un climat religieux permanent. Hein, puisque entre-temps, Gubaidulina est devenue une orthodoxe convaincue, elle se baptise en 1970. Et il n'y a qu'à voir le titre de ses œuvres, De Profundis en 1978 pour accordéon, son concerto pour piano Introitus qui renvoie à la phase introductive de la messe en grégorien, donc ça c'est en 1978 également, In Croce en 1979 pour violoncelle et orgue, Les Sept Paroles du Christ en 1982 pour violoncelle, accordéon et orchestre. Donc Gubaidulina clame haut et fort sa foi dans sa musique. Du coup, elle est moderne, elle est chrétienne. Gubaidulina va être blacklistée par le KGB. En 1973, un homme essaye de l'étrangler dans l'ascenseur de son immeuble, mais finit par s'enfuir. Peut-être un avertissement. Et l'année suivante, son appartement est fouillé de fond en comble. En 1979, sa musique est carrément interdite par l'Union des compositeurs de l'URSS. Mais heureusement, dans les années 80, arrive la perestroïa, une série de réformes économiques et sociales lancées par Gorbatchev, le président de l'époque, et qui consistent en des réformes de démocratisation, de transparence. L'URSS veut vraiment casser son image internationale de système répressif. Les artistes vont commencer alors à jouir d'une certaine liberté dans les années 80. Gubaidulina va être à nouveau jouée dans son pays. Elle va également être jouée à l'étranger. Et Gidon Kremer, célèbre violoniste letton, émigré en Allemagne, lui commande un concerto pour violon qu'elle appellera Offertorium et qui va véritablement lancer sa carrière.